RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Laurent Godet, vous faites donc partie des 560 romanciers français ou étrangers publiés d'ici octobre. Quelle réflexion vous inspire ce chiffre spectaculaire, hein, cette particularité si française de ce qu'on appelle la rentrée littéraire ?
C'est une énigme. C'est vrai qu'on est un peu les seuls à faire ça, mais en même temps, c'est le moment de l'année où il y a aussi le plus de place pour parler des livres. Donc, on peut aussi le voir comme une espèce de fête où finalement, ça parle quand même beaucoup de littérature.
On va dire une sorte de grand carrefour où on peut tous se retrouver autour des bouquins, échanger, faire des prévisions.
Il y a des embouteillages, évidemment, il y a du monde, mais en même temps, on n'en parle jamais autant qu'à ce moment-là. Ouais. Donc, réjouissons-nous.
Vous êtes d'ores et déjà l'un des gagnants de cette rentrée, hein. Selon le palmarès L'Express RTL, je le rappelle, votre livre Écoutez nos défaites, édité par Actes Sud, réussit le meilleur démarrage, juste derrière celui d'Amélie Nothomb. La fidélité des lecteurs, 12 ans après votre prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta, ça vous surprend ?
Ça me surprend. Puis c'est le plus beau des cadeaux, parce que c'est vrai que quand il y a un succès ponctuel, on vous dit avec un peu de malice, oh là là, ça durera pas, d'où il sort celui-là. Le fait que année après année, ben voilà, les lecteurs sont fidèles, c'est vrai que c'est un super beau cadeau. Et puis ça préserve un peu de ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire, il y a un côté un peu course de cheval, effectivement, au début, les rentrées littéraires, sur qui cette année ça va tomber, etc. Le fait de pouvoir inscrire comme ça un petit peu dans la durée, dans une espèce de relation quand même à la fois d'attente, mais rien que ça, c'est énorme, quoi.
Un lien qui se tisse, en fait.
Oui, et puis d'être attendu par les lecteurs. Moi, je n'en reviens pas d'être attendu.
Laurent Godet, vous l'expliquez comment, justement, ce lien, cette fidélité des lecteurs ?
Je l'explique pas, je m'en émerveille, mais je l'explique pas. Non, je sais pas. Je en plus ils vieillissent, c'est-à-dire que moi ils vieillissent, on vieillit ensemble, ce qui est quand même aussi assez chouette. Je me souviens je croise maintenant des jeunes gens qui étaient dans le jury du Goncourt des lycéens en 2002, qui m'a été donné pour La mort du roi de Sangor, et qui aujourd'hui sont profs de lettres et recommandent le même livre à leurs élèves. C'est super.
Bernard ?
Oui.
Écoutez nos défaites est donc l'un des grands coups de cœur de Laissez-vous tenter. Et comme souvent dans ses romans, Laurent Godet s'inspire de l'actualité.
Hein. Mais oui, après l'ouragan Katrina dans Ouragan, justement, le séisme en Haïti avec Danser les ombres ou Les migrants dans Eldorado, vous mettez en scène la rencontre d'une femme et d'un homme en lutte contre la barbarie islamiste. Elle, Mariam, est irakienne et archéologue. Elle tente de sauver les trésors du Moyen-Orient de la folie destructrice de Daesh. Lui, Hassem, est un agent des services secrets français envoyé pour une ultime mission très spéciale. Ils vont s'aimer, et bien plus que ça, le temps d'une nuit. Mais le livre va plus loin, et autre habitude chez vous, vous convoquez la grande histoire et vous racontez trois autres guerres. Celle d'Hannibal contre Rome, du général Grant face aux confédérés, et de l'éthiopien Haile Selassie contre Mussolini. En quoi, Laurent Godet, ce passé-là nous aide à mieux comprendre notre présent ?
Je sais pas si la question se pose pas comme ça pour moi. Il s'agit pas d'aller chercher chez les Selassie quelque chose qui éclairerait aujourd'hui. Il s'agit d'interroger une notion, celle de la défaite et donc de la victoire, et donc pour ceux de convoquer différents exemples et de décliner en fait un certain nombre de ces exemples-là pour faire des comparaisons, pour voir les divergences, pour voir à quel point la guerre a changé aussi, à quel point aujourd'hui, à l'ère du drone, à l'ère de la distance dans la guerre, à l'ère de la technologie, on parle moins de héros, on parle moins de bravoure, on parle moins de risque, ou en tout cas pas de la même manière. Tout ça, ce sont des bouleversements profonds. On parle même moins de victoire. C'est une question importante. Est-ce qu'aujourd'hui, le but des guerres, c'est la victoire ?
Vous avez un doute ?
Oui, j'ai un doute. Je suis pas le seul. Je reprends la pensée de Naomi Klein qu'elle développe dans la stratégie du choc. C'est-à-dire à partir du moment où une certaine guerre se privatise, est-ce que gagner vite est un objectif ou est-ce que traîner longtemps n'est pas plus productif ? Enfin voilà, toutes ces questions, ce sont des questions de la modernité. Et faire un détour par l'antique ou par l'histoire permet peut-être aussi de mettre en résonance toutes ces choses-là.
Alors justement, à propos de ce passé, les vaincus. Vous venez de parler de la notion de défaite, les vaincus sont parfois plus grands que leurs vainqueurs. C'est le cas d'Hannibal, qui est bien plus célèbre aujourd'hui que Scipion, le général romain, qui l'a défait, qu'on a un peu oublié, il faut le dire.
Oui, c'est merveilleux, ça, cette espèce de renversement. C'est le temps qui fait ça. C'est-à-dire qu'Hannibal est devenu, mais même de son vivant, assez vite un mythe, en fait. Cette espèce de figure de l'opposant à l'Empire romain. Moi, j'ai découvert, je l'avoue très humblement, en me documentant, que Hannibal n'était pas mort lors de la dernière. dernière bataille avec l'Empire romain. Il a vécu encore assez longtemps. Il y a au moins une vingtaine d'années pendant lesquelles c'est une figure de résistant en exil, on va dire, du côté de ce qu'aujourd'hui on appelle le Liban, la Turquie. Il se réfugie là-bas et avec toujours cette idée qu'un jour il reviendra. Et donc il est une menace permanente. Et c'est là que naît le mythe du retour d'Hannibal, le mythe de peut-être un jour l'Empire romain vacillera, on aurait dû le tuer, etc., etc. Et il partage en plus avec Élie Sélassié, avec Alexandre le Grand, avec un certain nombre, avec aussi Ben Laden et Kadhafi, le fait que sa dépouille n'a jamais été retrouvée. Et ça aussi, ça crée le mythe. C'est-à-dire, où est-il ?
Matière à fantasme.
Matière à fantasme, absolument.
Alors, le chef d'une guerre juste, le général Grant, qui déboucha sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, était aussi un boucher sur le champ de bataille. C'est-à-dire que ce double paradoxe, voilà, la guerre juste, mais le type qui est monstrueux sur le champ de bataille,
c'est
une matière littéraire.
C'était son surnom, d'ailleurs, hein, général boucher. Grant, le boucher.
Oui, ou le boucher ou l'ivrogne.
Oui. Donc,
dans les deux cas, c'était pas très... mais oui, non, c'est le paradoxe. Moi, je suis pas là dans le livre pour dire que Grant a eu tort parce que c'est un boucher. C'est évidemment plus compliqué. Évidemment que la victoire du clan de l'Union est intéressante d'un point de vue du sens de l'histoire. C'est la fin de l'esclavage, c'est l'Union aussi. Sinon, il y aurait eu un pays éclaté. Mais il n'en reste pas moins qu'il a théorisé ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre totale, c'est-à-dire qu'il a demandé à Sherman, son ami, de faire ça, de brûler les villages, de tuer le bétail, de voilà, ils avaient des phrases terribles, d'une lucidité terrible, hein, une guerre, il faut gagner la guerre et pour la gagner, il faut qu'elle soit rapide, pour qu'elle soit rapide, il faut qu'elle soit brutale. C'est le début de cette théorisation-là. Alors ça pose des questions qui sont vertigineuses, mais est-ce que la littérature n'est pas un peu là pour ça?
Alors, Élie Sélassié, c'est intéressant aussi, parce que là, vous montrez qu'on peut être un héros et finir comme une espèce de salaud. Bon, Élie Sélassié, c'est d'abord le défenseur de son pays, occupé par Mussolini, l'Italie fasciste, et puis il finit en vieil empereur, tyrannique, mégalomaniaque.
Oui, et moi, pour moi, hein, ça c'est personnel, mais Élie Sélassié, il est magnifique dans la défaite. Il y a ce fameux discours à ce qui était à l'époque la SDN, la Société des Nations.
Avant l'ONU.
Avant l'ONU, voilà, qui est un discours magnifique. Et alors là, pour le coup, qui résonne beaucoup aujourd'hui, parce que sur le concert des nations, sur la place des petites nations, sur la place qu'on ne fait pas aux petites nations, sur le fait que ça finira toujours avec les grandes nations finiront toujours par s'arranger entre elles, et personne n'a envie à l'époque de mourir pour l'Éthiopie. Il voit tout ça, il dit tout ça devant le concert des nations, et c'est un très très beau discours. Après, effectivement, quand il revient au pouvoir, il devient un peu laid.
Laurent Godet-Bernard évoquait il y a quelques instants Mariam et Hassem. Pourquoi avoir choisi comme combattant moderne, justement, non pas un soldat, mais un agent secret ?
Parce que j'avais envie d'un personnage qui soit pas dans un cadre trop rigide d'intervention, d'obéissance, qui soit dans des zones grises comme ça, avec une certaine marge de liberté personnelle. On peut imaginer que dans ces opérations-là, il y a quand même beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. Et puis parce que j'avais été assez frappé par le livre de Nouzi qui s'appelle Les Tueurs de la République, et qui retrace comme ça sur les derniers septennats ou quinquennats en France, la pratique qu'ont eu nos présidents vis-à-vis de cette chose qui existe, hein, les tueurs de la République, c'est nos tueurs officiels qu'on envoie faire des attentats ciblés ou des
assassinats. Nos tueurs officieux.
Officieux,
oui,
mais en même temps...
Puisqu'officiellement, ils ne sont pas censés le faire.
En même temps,
mais on sait qu'ils le font. Voilà.
Et alors, justement, ils ne peuvent pas être des héros, puisqu'ils sont anonymes, par définition. Donc, le héros disparaît dans la guerre d'aujourd'hui, dans cette guerre-là.
Oui, le héros, ça devient compliqué. Comme aux États-Unis, ceux qui ont participé à l'opération qui a mené à la mort de Ben Laden. Alors, les États-Unis essayent de faire ressortir de temps en temps des figures héroïques comme ça. Ils l'ont fait avec ce personnage qui est mort maintenant, mais qui a existé, qui s'appelle Kyle. Et puis, vous savez, le sniper dont Eastwood a fait un film. Ça, on voit bien que ça marche pas très bien. C'est-à-dire que il y a plus cette espèce de figure héroïque incontestable, parce que la guerre aujourd'hui se fait autrement.
Alors votre agent français là, vous laissez entendre qu'il était présent au moment de l'arrestation et du lynchage de Kadhafi en Libye. C'est une révélation, vous nous faites tout, c'est une fiction, Laurent Godet.
Je suis romancier et j'aime inventer des choses dans les petits plis de l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a une zone là qui m'intéressait, oui, de voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, effectivement, dans la foule en colère sur cette route entre Sirte et Misrata. C'est intéressant.
Il faut dire que ce sont des pages stupéfiantes dans votre roman, ce moment-là.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
9h12, merci d'écouter RTL. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Godet, avec grand plaisir, qui signe l'un des succès d'ores et déjà de la rentrée. Écoutez nos défaites, c'est le titre de ce livre publié chez Actes Sud. Nous vous le ferons gagner tout à l'heure, dédicacé de surcroît par l'auteur. Alors, il y a une femme dans votre roman, ne l'oublions pas, d'autant qu'elle est formidable, hein, c'est Mariam, l'archéologue irakienne qui tente de sauver de la folie destructrice de Daesh les trésors artistiques du Moyen-Orient. En quoi ce combat-là est tout aussi important que celui mené militairement, selon vous ?
Pour deux raisons, pour moi. D'abord parce que moi, personnellement, ça me touche, et je ne pense pas être le seul. C'est quand même un peu aussi le sens de nos vies, il est là. La beauté architecturale d'un temple grec ou des temples de palmyres, ça donne du sens à l'existence, à nos existences à tous. Et la deuxième raison, c'est que ce sont les mêmes ennemis qui, à la fois, détruisent ces vieilles statues, ces vieux temples, et ensuite vont tuer des gens dans nos rues. Donc, il y a un ennemi commun, et donc, ce sont les mêmes personnes. La chronologie, je repense à l'année 2001 qui nous a mené, on va dire, à la séquence qui mène aux attentats du 11 septembre. Ça commence par la destruction des grands Bouddhas de Bimayan en Afghanistan. Voilà. Mmh. Ensuite, il y a le meurtre de Massoud et ensuite, il y a les attentats du 11 septembre. Ça veut dire que c'est d'abord les vieilles pierres, les statues, ensuite les opposants ou les ennemis et ensuite le meurtre de masse. C'est une lecture qu'on peut faire quand même et qui se retrouve aujourd'hui. On a eu à la fois Palmyre et le Bataclan ou l'hypercachère.
C'est une même barbarie en fait qui veut nier en plus toute histoire de l'humanité. C'est-à-dire ce qui fait notre essence commune et notre égalité les uns et les autres est remise en cause à partir du moment où on tire sur ces Bouddhas.
Oui, je pense. C'est les forces de l'obscurantisme. Moi, je fais partie d'une génération qui, très sincèrement, mais vous aussi, j'imagine, ne pensez pas avoir dans son existence à vivre ça.
Jamais.
Le retour d'un obscurantisme aussi brutal. Et donc aussi d'un positionnement et d'une lutte de notre part vis-à-vis de ça. Moi, je ne pensais pas avoir à dire que oui, j'ai envie de pouvoir continuer à boire un verre de blanc à la terrasse d'un café avec une femme qui montre ses cheveux, qui a été éduquée, qui rit, qui est belle et qui est mon égale. Je ne pensais pas avoir à redire ça. Eh ben, on vit dans une époque où il va falloir remonter un petit peu au créneau vis-à-vis de ces choses-là. Ce qui est absolument tragique pour évidemment beaucoup de raisons, mais il y a peut-être un point positif, c'est que ça peut faire redémarrer une sorte de passion civique dans ce qu'on a envie d'être. Voilà. En tout cas, c'est
pour
une petite bouteille
à la mer. Pour vous venez de dire, et des femmes aux terrasses des cafés, que pensez-vous de la polémique du burkini là, qui vient de faire la une de l'actualité ces derniers jours?
Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on réglera les choses. Je trouve cette polémique, c'est vraiment, je trouve la polémique du mois d'août, quoi. C'est-à-dire essayer vis-à-vis d'un problème compliqué de fond, de se tortiller les cheveux sur des choses en plus. À partir du moment où on nomme le problème comme ça, il est quasiment... c'est déjà mort. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse interdire le burkini sur les plages. C'est absurde. Les femmes ont le droit de mettre... Alors après, on va faire quoi ? On va mesurer la masse de tissu qu'il y a sur les gens. On va regarder si ça va au-dessus du genou, en dessous du genou. C'est-à-dire qu'on va faire exactement ce que font les autres dans l'autre sens. Je pense que nos valeurs sont plus fortes que ça. Elles méritent mieux que ça.
Alors, nos valeurs sont plus fortes que ça. Ça amène une question, c'est que vous semblez dire qu'une guerre comme celle menée par l'État islamique est perdue d'avance pour les djihadistes. Pourquoi ? J'interprète bien votre pensée ?
Moi, je serais pas loin de dire ça dans la mesure où... Non, je ne sais pas si elle est perdue. Je sais qu'il ne peut pas y avoir de renoncement de notre part. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense pas être le seul. C'est-à-dire que, voilà, on a lu Diderot, Voltaire et Rabelais depuis trop longtemps pour renoncer aujourd'hui. C'est pas possible. Ma fille, elle a appris à lire.
Fragile, hein.
Et elle ne désapprendra pas à lire. Alors oui, la civilisation
c'est
fragile.
C'est au pays de Mozart et des grands auteurs et des grands musiciens que les nazis émergent aussi.
Bien sûr, je dis pas que c'est acquis. Je dis que, en tant qu'individu, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je sais que je ne renoncerai pas. Je sais pas si je vais réussir. Effectivement, on le voit en Irak, dans le nord de l'Irak, on le voit en Syrie. Du jour au lendemain, en Afghanistan, il y a des gens qui fumaient, à qui on a dit « vous ne pouvez plus fumer dans les rues », qui allaient à l'université, à qui on a dit « vous ne pouvez plus aller à l'université ». Donc je ne sous-estime pas le fait que ça peut arriver du jour au lendemain. pas chez nous non plus tout de suite, ne nous énervons pas. Mais c'est pour ça que je disais que la nécessité de remonter au créneau, elle est plutôt intéressante, passionnante et assez belle. C'est un combat à mener individuellement. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de renoncement de notre part. En ce sens-là, le combat, il peut pas être perdu.
Et alors ce combat, il passe entre autres par les mots, par des livres comme les vôtres. Est-ce que le mot peut être une arme contre le terrorisme?
La question de l'efficacité d'un roman vis-à-vis de la barbarie, elle est
très
quand
relative.
Même très relative. La nécessité, par contre, de continuer à faire ce geste-là, le geste d'écrire, comme le geste de peindre, comme le geste là, si on place ça comme ça, peut-être que oui, on peut dire que continuons à faire de la musique, des concerts, à écrire des livres. Continuons, bien sûr, c'est notre vie.
Et puis nommer, ne serait-ce que nommer le mal, le désigner, c'est aussi le combattre d'une certaine manière.
Oui, en tout cas d'accepter. Moi, c'est pour ça que j'ai eu envie. En fait, paradoxalement, le livre Écouter nos défaites est né d'abord avec les trois périodes historiques dont on parlait. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que le monde d'aujourd'hui soit dans ce roman-là parce que ça a du sens et parce que j'ai pas envie de tenir à distance ce qui se passe aujourd'hui du côté de Mossoul, du côté de la Libye. Au contraire, j'ai envie de le convoquer puisque ça résonne dans cette verticalité dont on parlait, qui est que l'histoire a des échos, qui est que l'archéologie fait un lien entre hier et aujourd'hui, et donc laisser le monde d'aujourd'hui avec toutes ces convulsions entrer dans mon roman, c'est un geste effectivement qui n'est pas anodin. Maintenant, est-ce qu'il va changer la face du monde? J'en suis pas certain.
Une dernière question. Écoutez nos défaites, c'est le titre de votre roman. Laurent Godet, quelle a été votre plus grande défaite?
Ces dernières années, je me suis beaucoup promené dans des coins du monde qui sont en souffrance. Je pense à Haïti, je pense aux bidonvilles de Port-au-Prince, à Cité-Soleil. Je pense aussi à Calais ou à Grande-Synthe, où j'ai été l'année dernière. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes vaincus. Et ça a déposé en moi pas mal de défaites. Et écouter nos défaites, c'est pour dire ça aussi. C'est-à-dire que je déteste cette idée que la vie doit être réussie ou ratée. Je pense que la défaite, c'est pas ça. C'est pas rater sa vie. C'est qu'on a tous rendez-vous avec ce moment de l'existence où on sent que quelque chose vacille, on n'a plus la même énergie qu'à 20 ans, on est du côté plutôt de la défaite. C'est pas grave, on peut essayer de le vivre pleinement, de manière affranchie, et de manière même peut-être libre et belle. En tout cas, c'est le pari que font mes personnages. Ils vont pouvoir, à un moment donné, s'affranchir de l'obéissance, par exemple, décider d'un certain nombre de choses, parce qu'ils ont justement basculé dans ce temps de l'existence qui est celui de la défaite.